j'ai dû sortir comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait des vêtements de pluie?
Ah, Mimi, pour le retour de la belle saison, j'ai bien tout rangé au grenier. Et bien avant que tu me le demandes cette fois-ci.
Si t'avais écouté la météo de l'agité, t'aurais attendu encore un peu.
Vous avez peut-être un rêve, un projet, et ça pourrait être celui d'une installation agricole en Mayenne. Et pour cela, vous n'êtes pas seul, il existe des structures qui proposent un accompagnement, une découverte des possibilités sur le territoire. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec mon invitée. Bonjour Catherine Renoux, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Margot.
Alors vous êtes la coprésidente de la SIAP 53 et donc on échangera ensemble dans quelques instants sur le parcours immersif agri-citoyen Alterfix. On découvrira de quoi il s'agit.
Ok.
On continuera ensuite par un coup d'œil rapide sur l'actualité locale et la météo, bien évidemment. Et ensuite, on se rendra à Laval avec Lucie qui nous a laissé un dernier reportage avant de partir. Elle s'est rendue à une fresque du climat pour découvrir ce qui s'y passe, qui sont ses participants et qui sont les animateurs de ces ateliers autour de la prise de conscience des enjeux environnementaux actuels. Et pour terminer, on aura le plaisir de terminer cette émission avec des sourires qui ne sont jamais de trop dans une époque comme la nôtre. Et celle qui nous fera rire et sourire, vous vous en doutez, c'est bien Priscilla Mignard et sa chronique juridique. Mais je vous le disais, nous sommes en très bonne compagnie aujourd'hui puisque nous sommes avec Catherine Renoux, coprésidente de la SIAP 53, SIAP pour coopérative d'installation en agriculture paysanne. Et donc aujourd'hui ensemble, on va parler du parcours immersif agri-citoyen Alterfix. Alors peut-être que pour commencer, on peut expliquer un petit peu ce que c'est ce parcours immersif, Catherine.
Avec plaisir. Donc c'est un projet innovant qui vise à accélérer la politique installation-transmission en Mayenne, c'est-à-dire la reprise des fermes, particulièrement les fermes en agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, voilà, c'est l'agriculture qui va permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier sur des surfaces raisonnables et des fermes qui resteront transmissibles. Mmh. Voilà. Et aussi des lieux qui vont permettre d'avoir une production de telle sorte à alimenter de façon locale et saine tous les citoyens voilà, autour de ces fermes en circuit court ou en circuit long, c'est-à-dire par le biais des laiteries, etc. Mais...
Ok, donc c'est vrai que l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui base sa production, sa manière de fonctionner sur des valeurs en lien avec l'environnement.
Voilà, tout à fait. Le respect, évidemment, de la terre, mais aussi des animaux et des humains qui travaillent sur la ferme. En
fait. Oui, c'est important de préciser
voilà,
aussi
que la santé de tous soit respectée.
Et alors, là, si on parle de ce parcours immersif, par qui est-ce qu'il est porté, ce projet particulièrement?
Alors, le parcours immersif donc, va se dérouler sur une année, de septembre 2024 à juillet 2025, en Mayenne. Il a pour but de mettre en relation les agriculteurs mayennais qui sont en recherche soit de repreneurs dans le cadre de la transmission de leur ferme, soit de salariés ou d'associés. Ces agriculteurs vont se manifester auprès de la SIAP. Ils vont être mis en relation avec des porteurs de projets, c'est-à-dire des personnes qui cherchent à s'installer en milieu agricole ou qui peuvent être à plusieurs niveaux de réflexion. Ça peut être juste à l'état du rêve pour l'instant de revenir vers la terre, comme on dit.
Ça commence bien quelque part, effectivement.
Voilà. Ou bien déjà des personnes qui ont des diplômes agricoles, qui ont envie de chercher une terre, de s'installer ou d'être salariés, voilà. Donc ces porteurs de projets, la SIAP va aller les chercher par voie de communication très large puisqu'on va s'adresser à des médias locaux mais aussi régionaux et nationaux pour les faire venir en Mayenne, leur montrer que la Mayenne est belle, qu'il y a des fermes à reprendre ou des postes à pourvoir en Mayenne. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, y compris aux filles et fils d'agriculteurs évidemment qui quelquefois reviennent à la ferme familiale ou une autre ferme après un parcours diversifié. C'est-à-dire souvent des jeunes qui passent quelques années à l'étranger ou qui font d'autres études.
Oui, c'est vrai que le parcours n'est plus celui qu'on pouvait voir forcément avant de reprendre aussitôt. Aujourd'hui, les chemins sont différents.
Tout à fait. Il y a beaucoup moins de transmission directe. Et puis le problème aussi de la transmission de fermes qui sont devenues très grosses. Et c'est là que... L'agriculture paysanne a toute sa place justement pour qu'on garde les fermes qui sont encore avec une taille à taille humaine, comme on dit.
Exactement, ça c'est un vrai sujet. On a pu le voir lors des manifestations d'un certain modèle agricole, notamment la difficulté à retransmettre. Il faut aussi voir que un certain modèle d'agriculture a changé, justement pour avoir des fermes, des exploitations. On ne parle plus effectivement de taille humaine, et la transmission est difficile aussi à cause de ça.
Tout à fait.
Un problème qu'on rencontre moins dans l'agriculture paysanne.
Oui, tout à fait. Et l'objectif justement de ce parcours immersif, c'est de montrer que ces fermes-là sont transmissibles, que ce sont des fermes qui sont viables, qui font vivre souvent sur, on va dire une moyenne de 40 à 50 hectares, quelquefois jusqu'à 10 personnes, alors qu'une ferme qui peut avoir 200, 300 ou 500 hectares ne va faire vivre, et quelquefois mal, juste une personne ou deux. Voilà. Donc il faut vraiment maintenir les fermes paysannes, c'est aussi maintenir le dynamisme dans les territoires mayennais.
Totalement, voilà. C'est important de le préciser, oui, vous avez raison.
Tout à fait. Et puis, dans les partenaires qui seront impliqués dans ce parcours immersif, il y aura bien sûr toutes les structures qui accompagnent habituellement un parcours d'installation agricole. Donc tout le réseau paysan, voilà, comme les associations ADARM, SIAP, Terre de Liens, les Cigales, qui donnent des bons coups de pouce financiers, Accueil Paysan, pour aller découvrir des fermes qui accueillent du public en camping ou en accueil de week-end, etc. Mais aussi, on veut mettre autour de la table toutes les structures plus institutionnelles, on va dire, qui sont indispensables dans un parcours d'installation, comme la SAFER, la MSA, la Chambre d'agriculture, les lycées agricoles et les maisons familiales rurales. Voilà. Donc, on a, je dirais, pas loin de 25 ou 30 partenaires qui vont être impliqués dans ce parcours immersif et qu'on souhaite voir impliqués, justement, pour montrer aux porteurs de projets qu'ils peuvent être entourés par tout un réseau de personnes,
d'accompagnants, de conseils, etc.
Et puis les citoyens, qui sont consommateurs. Tout le monde mange.
Exactement.
Et s'il n'y avait pas de consommateurs, ce serait bien inutile de faire des productions diverses et variées. Donc ces citoyens sont impliqués évidemment dans les AMAP, dans les circuits courts, les épiceries locales, mais aussi dans toute la vie territoriale. Donc pendant les périodes dont on va parler de ce parcours immersif, on parlera agriculture, mais aussi on parlera tourisme un peu. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la Mayenne, qu'est-ce qui peut donner envie de venir s'installer dans la Mayenne, tous les aspects socio-économiques ou socio-culturels qui peuvent être intéressants aussi.
Mettre en avant l'attractivité du territoire, effectivement. Quand on ne connaît pas, ce n'est pas forcément évident. Premier coup d'œil de tout.
Et je pense que c'est ce qui a aussi fait que ce projet s'est mis en place de façon fluide entre les PAT, donc les projets alimentaires territoriaux, donc on pourra développer peut-être un petit peu, donc la SIAP, la coopérative d'installation, les élus donc, qui accompagnent les PAT, parce que c'est tout un ensemble, on ne fait pas seulement une proposition pour reprendre les fermes, mais qu'est-ce que ça veut dire reprendre une ferme ? Ça veut dire la maintenir sur un territoire, ça veut dire accueillir des nouveaux habitants, les intégrer sur le territoire, des habitants qui vont avoir des enfants, qui vont alimenter les écoles, les commerces locaux, etc.
Et alors justement, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que ce que sont les plans alimentaires territoriaux ?
Alors, les projets alimentaires territoriaux couvrent l'ensemble du territoire de la Mayenne, du département de la Mayenne, ce qui, m'a-t-on dit, est rare. Il y a souvent des projets alimentaires territoriaux qui se font juste sur un territoire, dans un département. Là, on a la chance d'avoir 4 PAT qui couvrent l'ensemble de la Mayenne. Donc, il y a un projet dans la Haute-Mayenne, un en Sud-Mayenne, un Laval-Aglo et un dans les Côtes-Évron. Voilà. Ce sont des structures qui ont pour mission de soutenir une agriculture durable, de proximité, créatrice d'emplois, et qui ont pour, comme objectif de permettre le développement et l'attractivité du territoire. Voilà. Donc, les PAT ont été mis en place par les collectivités donc de ces quatre grandes collectivités territoriales à des dates différentes. Les premières ont commencé il y a 5-6 ans, je pense. Mmh. Et puis d'autres sont un peu plus récentes, mais toutes ont le même objectif, justement, que je viens de décrire. Hein, de mettre une alimentation saine, durable, à portée de tous, accessible à tous.
Voilà. Des valeurs, effectivement, qui donc, tiennent à cœur des habitants mayennais, forcément, c'est très important. Voilà.
C'est des choses qui sont... déjà en réflexion depuis donc entre 3 et 6 ans. Mmh. Il y a eu des rencontres importantes pour que tout le monde se mette autour de la table et voit quel objectif on peut se donner à l'horizon 2030, en fait, pour atteindre les objectifs que les PAT se sont donnés.
Et alors justement, si on revient sur ce parcours immersif Alterfix en Mayenne, qu'est-ce qui est proposé? Comment est-ce qu'il va se dérouler finalement?
Alors c'est un partenariat donc, qui a été fait entre les PAT, la SIAP principalement, et aussi, je vais y venir après, le conseil départemental. Mmh. Voilà, donc la SIAP qui accompagne depuis 10 ans en Mayenne des porteurs de projets. Donc des personnes qui ont le souhait de venir s'installer en agriculture, la SIAP les accompagne dans leur parcours d'installation avec plusieurs outils qui leur permettent de les mettre en contact avec des paysans qui sont en activité.
Ils
vont partager leur expérience, leur plan comptable aussi, enfin voilà, qui les accompagne vraiment bien. Il y a eu une étude de fait en 2022 sur la faisabilité d'espaces tests agricoles en Mayenne. Mmh. Donc les espaces tests, ce sont des endroits, des espaces agricoles qui sont mis à disposition des porteurs de projets sur un temps variable, qui peut être plus ou moins long, pour tester leur activité avant leur installation définitive. Voilà. Donc, la salariée de la SIAP qui était dédiée à cette étude a rencontré vraiment toutes les collectivités, est allée partout en Mayenne. Et de là est née l'envie de monter des espaces tests en Mayenne, mais aussi dans ce premier temps de réaliser ce parcours immersif voilà, pour, à plus court terme, on va dire, mettre en rapprochement,
voilà, les
besoins
des échanges,
de la Mayenne et puis les demandes aussi, parce qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui se présentent à la SIAP chaque année.
Exactement. Et donc, ce que vous proposez dans ce parcours immersif, c'est un programme en 3 week-ends de 3 jours, plus un camp de 15 jours. Alors, expliquez-moi un petit peu ce que c'est.
Voilà. Alors, déjà, je vais revenir peut-être pour dire que... L'Alterfix, c'est une association qui existe dans l'Orne, qui depuis 2022 donc, propose des camps de 15 jours, 3 semaines, donc 2022-2023, avec les objectifs que je viens de décrire, de mettre en relation des fermes à transmettre et des porteurs de projets.
D'accord.
L'Alterfix a été rencontré donc par Laure, la salariée qui a fait l'étude de faisabilité d'espace test, et avec comme envie d'essaimer voilà, son modèle dans d'autres départements. Donc, était prêt à aider la Mayenne à instaurer aussi ce parcours là-bas,
d'accord,
ici. Voilà, donc effectivement, en Mayenne, ça va se passer de la manière suivante. Donc, en fin septembre, donc les 3 week-ends auront lieu sur 3 territoires différents. Donc, en septembre, dans la Val Aglo.
Le 27, 28 et 29 septembre, effectivement.
Voilà,
oui.
Ça va être très vite arrivé.
C'est ça.
En février, en Haute-Mayenne. En mai, en Sud-Mayenne. Mmh. Et ça se terminera donc par un camp plus long de 15 jours dans les Coëvrons en juillet 2025. Tous les partenaires que j'ai évoqués tout à l'heure qui interviennent, je dirais plus ou moins au début ou quelquefois à la fin ou après un parcours d'installation, sont sollicités justement pour participer, pour être présents au moment des week-ends et des rencontres en général, pour partager, pour expliquer leur rôle et montrer aux porteurs de projets qu'ils peuvent être soutenus dans leur installation. Voilà, je ne veux surtout pas oublier que le conseil départemental donc, oui. Soutient financièrement le parcours immersif Alterfix en Mayenne dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle la Mayenne engagée pour le climat. Les PAT sont non seulement des partenaires logistiques, organisationnels, mais aussi des partenaires financiers. Voilà, et puis donc les citoyens consommateurs qui pourront avoir plusieurs rôles en amont des rencontres des week-ends et du camp pour nous aider à l'organisation ou aussi pour montrer que les consommateurs sont présents et que les producteurs peuvent produire, que les consommateurs attendent des productions saines et locales.
Ok. Et donc, en quelques mots, peut-être on peut rappeler à qui ça s'adresse. Donc, ce parcours immersif Alterfix, si on a l'idée, si on est en train de construire son propre projet d'installation agricole, si on a, pour l'instant, ce n'est juste qu'une idée qui est en train de germer, on peut aussi s'adresser directement à vous et puis aller voir un petit peu comment ça se passe sur notre territoire. Et alors, peut-être on peut dire à nos auditeurs comment est-ce qu'on s'inscrit, comment ça se passe en termes pratiques.
Oui. Alors, je peux donner déjà l'adresse mail et un téléphone, si vous
voulez.
Exactement. C'est SIAP, donc CIAP.mayenne.eta, comme espace test agricole, @gmail.com. À cette adresse, donc, un salarié peut répondre aux questions des porteurs de projets ou des paysans installés qui voudraient participer.
Il y a aussi un numéro de téléphone, je crois, oui.
Oui, voilà, 07 87 24 51 46. Pour donner une idée un petit peu de l'organisation d'une journée type, on va dire, voilà, c'est la journée sera basée sur beaucoup de choix proposés aux participants, puisque comme on en a parlé tout à l'heure, on va avoir certainement des profils de porteurs de projets très différents. Des personnes qui vont arriver avec un rêve dans la tête de revenir vers un travail agricole ou de s'installer au milieu de la nature, etc. Et puis d'autres qui auront avancé déjà dans leur projet, qui auront réfléchi à quelle production ils pourraient faire, sans trop savoir encore, peut-être. D'autres qui seront au contraire encore plus avancés parce qu'ils auront une formation agricole, un brevet d'exploitant agricole, BPREA, un lycée ou un MFR. Donc il va falloir qu'on s'adapte
aux
participants
de chacun,
qui vont s'inscrire, et ça on ne le sait pas encore.
C'est ça.
Au cours des journées, il va y avoir des choix permanents. Par exemple, soit aller visiter des fermes, soit sur les fermes qui accepteront de faire un chantier collectif pour aider l'agriculteur, mettre vraiment les mains dans la terre. Avec tous nos partenaires, des tables rondes qui seront proposées pour montrer, expliquer comment intervient chaque structure dans l'installation. Ça va être des tables rondes différentes aussi selon les besoins de chacun. Proposition d'aller visiter, d'aller faire un petit tour en Mayenne, visiter un site remarquable sur le territoire où on sera accueilli, des rencontres avec les associations, avec les consommateurs, les élus,
Okay.
Et puis du temps libre aussi quand même pour, pour que c'est important aussi qu'il y ait une vie collective. Pour que les porteurs de projets, les participants puissent échanger entre eux. Dans l'Orne, ils ont constaté que, avec des échanges qui avaient lieu pendant les rencontres, de là naissaient des projets agricoles collectifs où disant, ah ben, on s'est bien entendu le temps du week-end, pourquoi on ne ferait pas un projet agricole ensemble ?
L'importance du réseau, voilà. Des liens qui peuvent se mettre en place à ce moment-là.
Tout à fait. Voilà. Okay. Donc je précise qu'en plus des rencontres mayennaises, il y a début septembre un camp de 15 jours dans l'Orne également. Mmh.
Voilà. Et alors, toutes ces informations, on peut les retrouver, je pense, sur https://alterfix.fr/mayenne. Est-ce que là-dessus, on retrouve l'ensemble, oui. Si on a des questions?
Voilà,
des
alors pour faire plus simple, on va dire sur le site alterfix.fr.
Oui, voilà.
Voilà, parce que du coup, mais c'est récent. Mmh. Voilà, le site envoie vers une page 53 et une page 61.
D'accord.
Et un projet dans le Lot-et-Garonne.
Voilà. D'accord, et bien en tout cas, merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous avoir présenté ces beaux projets, cette très belle dynamique et ce très beau réseau qui existe sur notre territoire.
On peut en dire plus sur le stand de la SIAP à Planète en Fête, voilà, le 29 et 30 juin.
Voilà, effectivement, voilà, on peut rappeler. Il ne faut pas hésiter à se rendre à Planète en Fête. Merci beaucoup Catherine d'avoir été avec
Margot.
Nous. Je vous propose maintenant à mes auditeuristes une pause musicale et alors on va écouter Glauque et son titre Plan Large.
Je vois le reflet de mon époque devant mon écran éteint. Perdu comme un moment l'état, j'en suis un. Boire des verres de Pardieu comme Gérard Depardieu dans des verres en éteint. Boire des cafés noirs, broyer du noir, verser la mare dans le siphon en éteint. Pisser dans la mare, se cacher dans l'armoire, tomber du perchoir, les films ont éteint. Bavard sur la forme, avare sur le fond, les gens font tel son, les films ont éteint. Les gens sont des cons, oublient que convaincre, c'est vaincre les cons, se battre contre rien. Se battre pour tout, défendre le bon, fidèle jusqu'au bout, un bon petit chien, prêcher pour le bien, lire sa partition, les écrits bidons, les films ont éteint. Les hommes jouent au prince, sans exception, manipulation, les films ont éteint, les filles sont des temples, les hommes sont des saints, les filles ont des seins, les filles sur des cintres, les filles sur des filles. Qui défile dans nos vies, des fissures dans le vide qui remplit le trop-plein, des produits qui se consomment et puis un jour périm, signé par intérim, pensée futur terrain, pensée propriétaire, pensée à la manière de pas être propre en partant, pensée sexe gagnant, pensée amour perdant. Je vois le reflet de mon époque devant mon écran éteint, perdu comme un moment l'état, j'en suis un. Boire des verres de Pardieu comme Gérard Depardieu dans des verres en éteint. Les hommes de valeur, plus aucune valeur. Le blanc du leurre, les films ont éteint. À l'intérieur, le noir du cygne. Jouer au simple, les films ont éteint. Frôler les cimes, traverser les ombres. Le long des cernes, les films ont éteint. Rêve d'un mauvais songe, rêve d'un passé sombre. Jouer au singe, les films ont éteint. Le cœur d'une veuve, brûlé à vif. Y croire sans preuve, les films ont éteint. Y croire sans preuve, non plus jamais. Jeune et hargneux, les films ont éteint. Jaune et mauvais, rire de façade. Nouveau départ, même arrivé. Rite de passage, rite de bâtard. Rite du lion, déjà fatigué. Les arrivistes veulent plus rien faire, que des branleurs, juste profiter. Que des brailleurs, l'essentiel est ailleurs. Des religieux païens, des féministes violeurs. Aseptiser le violent, puis jouer du violon. Les apparences vaillantes et leur mauvaise odeur. Vérité défaillante que les films ont dépeinte pour nous coincer ici dans le même rêve d'ailleurs. Quand on sent trop mal, on se complaît, c'est trop bien. Quand je me sens trop mal, mes couplets sont trop bien. Quand je me sens trop mal, mes couplets sont trop bien. Encore un va-et-vient, et puis j'aurai le refrain.
Allez, maintenant, place à l'actu. On va essayer de faire rapide. Après la conférence de presse du président Emmanuel Macron hier, les élus centristes du département de la Mayenne, Olivier Richefou et Vincent Saulnier de l'UDI, ainsi que Yannick Borde, délégué Horizon, ont demandé au député sortant Guillaume Garot du Parti Socialiste de, je les cite, clarifier sa position dans l'attente de savoir s'il rejoindrait le centre, les centristes, les sociodémocrates, en s'opposant donc au Front Populaire et au Rassemblement National. À cela, Guillaume Garot répond dans les colonnes du Ouest France que la situation exige de la responsabilité face aux dangers de l'extrême droite, qu'il n'est pas dans la majorité présidentielle et qu'il souhaite participer à un rassemblement large des déçus d'Emmanuel Macron à toute la gauche, mais sans les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Il rappelle que pour la constitution du Front Populaire, il restera très vigilant. En évoquant notamment son attachement à l'Europe, le soutien à l'Ukraine, le respect des institutions et à la qualité du débat public. Toujours en lien avec ces élections législatives, le syndicat solidaire appelle les Mayennais à descendre dans la rue samedi 15 juin 2024 à Laval. Le rendez-vous est donné à 17h par Vie des droits de l'homme derrière l'hôtel de ville. La CGT mayennaise appelle également tous les travailleurs à participer massivement à toutes les mobilisations dans les départements contre l'extrême droite et contre la politique d'Emmanuel Macron. Allez, on passe maintenant à la météo avec un ciel très nuageux aujourd'hui, mais un temps qui reste sec. Cet après-midi, on remarquera les températures iront de 17 degrés à Soucé en allant jusqu'à 20 degrés à Mayenne, Château-Gontier, Saint-Laurent-des-Mortiers. C'est également le cas à Évron. Pour le reste, Goron affichera 18 degrés au thermomètre, 19 à Laval et Mélay du Maine. Demain, ça sera une matinée grisonnante également avec de la pluie à Landivy seulement. Les températures oscilleront entre 17 et 15 degrés. Les températures qui remonteront d'ailleurs l'après-midi avec 17 degrés dans le grand nord du département, 20 degrés autour de Château-Gontier et 18-19 degrés dans le reste du département. Alors Géraldine, garde tes claquettes au chaud encore un peu puisque la pluie fera son retour à Goron, Landivy, Évron, Laval, Mélay et Cran. Il n'y a que Château-Gontier qui échappera avec un très bel ensoleillement. Lucie n'est pas partie sans nous laisser un dernier reportage, je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, et je l'en remercie d'ailleurs. Elle s'est rendue en mai à une fresque du climat qui avait lieu à Laval. Elle a voulu découvrir ce qui s'y passait, à quel public ces ateliers étaient dédiés. Elle nous emmène avec elle. Écoutez.
Alors moi je m'appelle Céline Jensens et je suis donc la référente de la fresque du climat pour la Mayenne et aussi professionnelle de la fresque du climat pour les entreprises et les collectivités.
Est-ce que en quelques mots tu pourrais essayer de la présenter à nos auditeurs pour qu'ils aient une idée un peu de qu'est-ce que c'est en fait une fresque du climat ?
Alors la fresque du climat c'est un atelier participatif où l'intelligence collective vient au service de l'atelier pour essayer de comprendre le dérèglement climatique avec des cartes qu'on doit mettre en lien de cause à effet. Donc c'est ludique, ça dure 3 heures. Il y a 3 grandes parties. Il y a une partie tout d'abord de réflexion où il faut mettre les cartes dans l'ordre de cause à effet. Puis une partie créativité et accueil des émotions. Et enfin la dernière partie où il y a des discussions, des débats pour essayer de justement passer à l'action et essayer de sortir de là avec des points positifs et avec des choses à faire en sortant de cet atelier.
Donc le but c'est à la fois de créer une prise de conscience et puis d'aider aussi à ne pas se sentir impuissant peut-être.
C'est ça, donc la prise de conscience évidemment c'est le plus important. Et en seconde partie, en effet, l'idée, c'est malgré les émotions parfois fortes qu'on peut ressentir vis-à-vis du changement climatique, les anxiétés que ça peut générer, etc., le but, c'est de se dire, en fait, moi aussi, à l'échelle individuelle, je peux faire quelque chose et c'est pas négligeable. Parce qu'aujourd'hui, trop de gens estiment qu'ils ne peuvent rien faire à leur échelle et que ça doit se faire via les politiques, via les entreprises. Mais à l'échelle individuelle, on peut faire quelque chose.
Les deux animateurs qui sont présents aujourd'hui disaient que c'est la troisième fois qu'ils animent. Comment est-ce qu'on devient animateur d'une fresque ? Est-ce qu'il faut l'avoir fait une première fois peut-être d'abord ?
Oui, tout à fait. Il faut d'abord l'avoir vécu déjà en tant que participant. Et puis, il y a des formations qui sont proposées. C'est sur le même format de 3 heures. Donc, il suffit de s'inscrire à une formation. Il en existe en ligne ou en présentiel en fonction des villes dans lesquelles on veut la faire. Et puis après, on devient néo-animateur. Et il y a des parcours avec des systèmes de ceinture, de couleurs de ceinture, comme au judo. Donc voilà, les néo-animateurs, ils sont ceinture blanche. Quand ils font une première fresque, ils deviennent ceinture jaune. Et plus ils en font, plus ils montent les échelons.
L'intelligence collective entre vous. Donc vous allez certainement apprendre à vous connaître au fur et à mesure de la soirée à échanger, puisqu'en fait, ça va être un jeu dans lequel vous allez devoir parler ensemble et collaborer un peu. Donc c'est un peu l'esprit du jeu, c'est vraiment très collectif.
On a l'impression que la conscience écologique évolue, mais est-ce que finalement, quand on participe à cette fresque, on se dit qu'il y a encore du travail ? Quels sont les enjeux en fait ? Pourquoi c'est important ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a l'impression, quand on est fresqueur, que tout le monde sait ce que c'est. Et en fait, on se rend bien compte, quand on en parle autour de nous, que ce n'est pas encore le cas, surtout en Mayenne, où c'est un atelier qui n'est pas encore très, très connu. Évidemment, quand moi je suis autour des gens écologiques comme moi et qui font attention à ces enjeux-là, ils sont globalement tous sensibilisés et ils connaissent déjà la fresque du climat. Par contre, dès qu'on sort de ce cercle restreint, on se rend bien compte qu'auprès des entreprises, ou voire même des collectivités, bah, ils ne connaissent pas forcément cet atelier, qui est pourtant vraiment très puissant. Et donc, les enjeux, c'est surtout de faire prendre conscience, de passer à l'action, et d'avoir une idée aussi de ce qu'il faut faire en fait, à titre individuel. Il existe plein d'autres types de fresques. Hein, donc là, c'est la fresque du climat qui est un peu la fresque mère, parce que c'est la toute première qui a été créée. Mais son format pédagogique plaît tellement qu'elle a eu plein de déclinaisons. Donc, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a une cinquantaine. Mais il existe la fresque de la biodiversité, la fresque du numérique, la fresque de l'économie circulaire, la fresque du sexisme qui n'a absolument rien à voir avec l'environnement. Mais voilà, il en existe une panoplie. Donc, chacun peut y trouver le sujet qui le passionne avec ce format pédagogique. Voilà, c'est important.
Est-ce qu'on a déjà chauffé ? Non ?
Lucie s'est aussi tournée vers Stéphanie, une des participantes.
Comment est-ce que vous vous sentez là avec ce premier aperçu ?
Je prends conscience que j'avais qu'une vision très partielle de ce qui se passe. Je ressens un certain malaise en fait, parce qu'on est encore à l'étape où on n'a pas vu, on n'a pas échangé, on n'a pas brainstormé, je pense que ça joue. Mais en tout cas, ouais, j'ai cette impression que c'est bien pire que ce que j'imaginais et que les causes, elles sont multiples. C'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de... Mais en fait, il y a plein de conséquences qui vont bien au-delà. Même si on le sait, là, j'en prends conscience pleinement. Et c'est comme si ça devenait vrai. C'est un peu mon ressenti. Et je me dis qu'il y a du boulot, parce que si moi j'ai cette réaction-là, je pense que plein d'autres aussi, et probablement, et qu'il faut qu'on travaille pour limiter ça. Enfin, là, on se disait que pendant le Covid, on a réduit tous les effets de 5%. Bah, c'est pas anodin, 5%. Il y a des choses à faire.
Ou alors vous mettez l'agriculture en haut, c'est comme vous voulez. Et j'ai des gommes ici.
Ah oui, dans la carte, oui, ça va être plus pratique.
Cette fresque, elle s'adresse plutôt aux adultes. Est-ce qu'il y a des outils qui sont pensés aussi pour des plus jeunes ou des enfants ?
Alors, la fresque du climat et souvent les autres également ont une version junior. Donc ici, la fresque du climat, celle-ci pour adultes commence vers 15 ans à peu près. Mais il existe une version junior qui normalement s'adresse dès 10 ans. Hein, donc il faut quand même avoir vu les bases scientifiques pour comprendre ce que c'est l'effet de serre, ce que c'est du CO2, le fait qu'une voiture émet du CO2, pour pouvoir quand même la faire. Donc on évite de la faire trop jeune, mais globalement, il y a besoin de... Il y a une version junior, voilà.
Pour terminer, pour nos auditeurs et auditrices qui aimeraient se rendre à une fresque du climat, quelles sont les conditions pour venir ? Comment est-ce qu'on peut s'y rendre ?
Alors, c'est accessible, donc, comme je le disais, aux adultes, à partir de 15 ans. 15-16 ans. Sur le site de lafresqueduclimat.org, tous les ateliers sont mentionnés, dont ceux à Laval. Et donc, il suffit de s'inscrire, c'est prix conscient, donc on met ce qu'on peut, ce qu'on veut. Et puis, ça se passe ici, aujourd'hui, c'est au préalable du Crédit Mutuel, qui nous accueille gracieusement, donc je le remercie. Mais ça pourrait être ailleurs si jamais ça change. Mais voilà, normalement, c'est ici, et tout est inscrit sur le site de la Fresque du Climat.
Ce n'est pas elle qui a ajusté nos problèmes de néon en studio et pourtant elle aurait pu, puisqu'en s'installant face à son micro, elle nous apporte un éclairage sur les méandres du droit et de la justice. Il s'agit de notre chroniqueuse Priscilla Mignard, ou Garou, ou Gérard Darmon. Vous m'avez dit ne plus trop savoir où vous en étiez vocalement parlant, Priscilla.
Oui, Margot. Bonjour, bonjour mes défenseurs de la veuve et du berger australien. Je ne sais pas pourquoi tout le monde ne jure plus que par cette race de chien. Perso, rien ne vaut la douceur d'un pitbull. Le chien, pas le rappeur dont le crâne chaud fait penser à un vibromasseur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Cour de cassation. À ne pas confondre avec la Cour de castration, lieu de jugement et d'exécution de tous mes ex. On dit que la justice est aveugle, autant vous dire que là, elle vise toujours au bon endroit. Passons.
Mais alors c'est quoi la Cour de cassation ?
La Cour de cassation, c'est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. L'ordre judiciaire, c'est quoi ? Pas une nouvelle secte, même si ses membres sont parfois vêtus d'étranges robes et se reproduisent souvent entre eux. Ici, pas de sacrifice rituel, mais l'application du principe de séparation des pouvoirs qui a entraîné l'apparition de deux grands ordres de juridiction, les juridictions administratives, qui appliquent le droit administratif, bah oui, tout est dans l'énoncé, et les juridictions judiciaires qui vont appliquer le droit privé, comme le droit civil, pénal, droit du travail.
Alors ça donne quoi en pratique, cette séparation des pouvoirs ?
Eh bien, d'un côté, on a la Cour de cassation qui est à la tête des juridictions judiciaires, et de l'autre, on a le Conseil d'État à la tête des juridictions administratives. Cela fait beaucoup de têtes, alors repensez à la vanne sur Pitbull, ça vous paraîtra plus fun. La Cour de cassation est une juridiction particulière. Elle ne rejuge pas l'affaire comme le ferait la Cour d'appel. Quelle feignante ! Pire que Pénélope Fillon. Spécifiquement, la Cour de cassation peut annuler des décisions de justice qui sont rendues en méconnaissance de la loi, ou à l'inverse, rejeter le pourvoi, rendant définitive la décision attaquée. Elle est le juge du droit. Elle s'assure uniquement de ce que, à la lecture des motifs de la décision frappée de pourvoi, la loi a été correctement appliquée aux faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond.
Donc les faits ne peuvent pas être rejugés ?
Non, en effet. Les faits ne peuvent pas être discutés devant la Cour de cassation. Plus de remise en question, pire qu'un Poutine torse nu sur un cheval. Mais je dois nuancer mon propos. Vous me connaissez maintenant, je suis tout dans la nuance. Car une loi du 18 novembre 2016 prévoit deux exceptions à ce principe de non-jugement en fait. D'abord en matière civile, lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour examine les faits. Ensuite, en matière pénale, lorsque les faits constatés et appréciés par les juges du fond lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre elle-même fin au litige, histoire de ne pas avoir à renvoyer le jugement vers une nouvelle cour d'appel et de régler le litige plus rapidement. On peut appeler ça l'efficacité de la justice. C'est pas souvent, donc il faut le souligner, un peu comme un athlète français en finale du 100 mètres au JO, ou aux Mondiaux, ou aux Championnats de France. Mais dans la majorité des cas, la Cour de cassation va uniquement censurer la non-conformité du jugement attaqué aux règles de droit. Le but étant de permettre une application uniforme du droit dans toutes les juridictions françaises. On dit que les arrêts de la Cour de cassation font jurisprudence, ce pour éviter qu'un même texte juridique ne soit interprété de plusieurs façons. C'est comme en musique. D'un côté, il y a l'interprétation magnifique de L'Aigle Noir par Barbara, de l'autre, l'interprétation bourrée dégueulasse de ce même titre par Gérard Depardieu. Quand on connaît le thème caché de la chanson, on peut se dire que quand même, il sous bien notre gueule le GG. Plus chèvre que mon père ce héros.
Comment intervient alors la Cour de cassation ?
La Cour de cassation est saisie soit par la partie ayant fait l'objet d'une décision de justice, soit par le ministère public. Mais si Teddy Riner lui fait une saisie de judo pour en finir en hippon, ça marche aussi. Il faut noter que la Cour de cassation est le dernier recours dans l'ordre judiciaire national. La Cour de casse, son petit surnom, c'est un peu l'agence tout risque. La dernière chance au dernier moment. Bien sûr, ces arrêts peuvent être déférés aux juridictions européennes, Cour de justice des communautés européennes ou Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, tant que Barre-toi de là ne sera pas arrivé au pouvoir. Par ailleurs, la représentation par un avocat au Conseil est obligatoire devant la Cour de cassation. Bien sûr, on évitera de choisir Gilbert Collard.
C'est quoi un avocat au Conseil, Priscilla ?
C'est un avocat spécialiste de la procédure devant la Cour de cassation, le Conseil d'État et pour le montage des meubles IKEA. Polyvalence. Par ailleurs, la Cour de cassation a d'autres missions consultatives parce qu'elle aime bien donner son avis, même quand on ne lui demande pas. Une sorte de François Bayrou. Oups. Pour conclure, restons sur nos gardes car c'est l'existence d'une juridiction suprême NTM et censée garantir une même application du droit pour tous. L'interprétation choisie ne reflète pas toujours l'opinion publique et elle peut varier dans le temps. Alors comme dirait Cool Chen, laisse pas traîner ton fils. Ouais, ça n'a rien à voir mais ça me fait plaisir. Et imaginez un jour que je sois à la Cour de cassation. Ce serait la fièvre. Je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup, Priscilla.
Merci également à Catherine Renoux d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'AJT s'arrête ici, mais on ne se quitte jamais vraiment sur l'autre radio. On se passe la parole. Et la parole ce soir est donnée au cinéma, oui, puisque votre soirée va très bien commencer à 19h avec Le Masque et la tronçonneuse qui nous parlera aujourd'hui de la saga Mad Max. Ensuite, à 21h, on continuera avec Quand la musique est bof, qui revient sur la comédie romantique américaine Challengers, réalisée par Luca Guadagnino et sa bande originale signée Trent Reznor et Atticus Ross. Nous, on se laisse ici. On se retrouve demain pour le grand entretien en compagnie d'une partie de l'équipe du festival L'Arbre Bavard, un festival qui propose cette année sa 3e édition à Andouillé. S'il ne vous dit rien, soyez au rendez-vous demain, vous serez heureux de le découvrir. D'ici là, profitez de cette journée, suivez l'actualité au bon endroit et surtout, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.